Essence Inter.
J'ai voulu écrire ce livre pour réfléchir sur les raisons profondes qui m'ont conduit à me convertir et les processus difficiles de la déconversion. Mais moi, je n'ai pas voulu accuser les gens qui m'ont trompé, j'ai voulu dire pourquoi moi, je me suis trompé. Je suis resté d'abord un être infantile qui aime beaucoup le jeu, un reste adolescent qui, comme je vous l'ai dit, a gardé ses aspirations sans illusion, un petit peu adulte parce que j'ai pris quelques sens de la responsabilité, un peu de sagesse, mais pas trop, parce que je sais qu'il y a sagesse pure pour mélanger toujours la raison et la passion, la sagesse et la folie.
Toute cette semaine, nous avons rendez-vous avec Edgar Morin. Vous avez peut-être entendu les épisodes précédents, aujourd'hui 4e émission de ce feuilleton consacré donc à Edgar Morin, sociologue, intellectuel engagé, qui ne cesse de publier et d'intervenir sur la scène publique, politique, intellectuelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la compréhension, la mise en perspective de ce texte publié en 1959, intitulé « Autocritique ». Ce soir, qu'est-ce qu'une croyance politique? Qu'est-ce que la citoyenneté? Comment combattre nos démons? Ce soir, épisode numéro 4, les fétiches, magie et irrationalité.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages tout là-bas sous l'autre ciel. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
En même temps que je prenais lentement conscience que mon stalinisme était une religion, que mes élans les moins contestables étaient mystiques, que mes outils mentaux étaient eux-mêmes des mythes, je découvrais quel rôle fantastique pouvait jouer la magie dans nos esprits qui se croient rationnels et dans nos sociétés qui se disent rationalisées, combien nos attitudes et nos croyances baignaient dans l'imaginaire. À vrai dire, je cheminais sur deux voies, sans encore bien deviner que j'étais poussé par un même souci. D'une part, je m'évertuais à me libérer d'écailles successives de magie. D'autre part, dans mes études sur la mort puis sur le cinéma, je découvrais que l'homme contemporain était imprégné de magie. C'est tout récemment que ces deux voies ont enfin convergé, lorsqu'au moment même où je croyais enfin dominer la magie du haut du promontoire de mes études, où je croyais enfin m'être délivré de toute magie politique, je me suis rendu compte que j'étais à jamais engagé dans les réseaux de la magie. Magie ne signifie pas seulement illusion ou sorcellerie. C'est la croyance en la réalité objective de ce qui n'est que mental ou subjectif. C'est la croyance en la vie subjective de ce qui est dépourvu de subjectivité. Toute notre vie affective, l'émotion, l'amour, la haine, la colère, suscitait des efflorescences et des cristallisations de magie, sans pouvoir pourtant se définir exactement par la magie. Les projections-identifications du totémisme se retrouvaient sous une forme abstraite dans la nation, la patrie, le parti. La magie était donc une des structures essentielles de notre civilisation. Il suffisait du reste d'y reporter les catégories du sacré, du tabou, du totem, du mana, de la possession, du rite, du culte. Il suffisait de considérer les caractères paramagiques ou franchement magiques de l'aliénation et de la réification. Il suffisait d'étudier les projections-identifications du monde moderne. Nos vies, nos sentiments, nos connaissances, nos idées ne pouvaient certes se réduire à la magie, mais étaient plus ou moins structurées par la magie. Continuellement, nous aliénons hors de nous le plus intime de nous-mêmes. Nous réifions et le monde extérieur et notre personnalité intime. Nous fétichisons amour, valeur, idées. Après l'expérience du stalinisme, je m'étais juré de détartrer, je ne dis pas ma vie, hélas, mais du moins mes pensées de toute magie. Aujourd'hui, je me rends compte qu'une vie sans magie n'est pas possible. Il fallait le reconnaître. Mon intérêt politique, comme toute participation politique, supposait mon identification à la collectivité ou à une idée de la société, une projection de mes aspirations dans les mythes égalitaires et libertaires, et sans cesse, ces projections-identifications se cristallisaient dans ce sentiment que je me sentais responsable de la société tout entière. Sinon, pourquoi militer ? Il suffit de laisser jouer les lois statistiques. Il fallait le reconnaître, ces valeurs auxquelles je m'accroche actuellement, puisque c'est tout ce qui me reste du déluge, je vois bien que ce sont les formes abstraites, rationalisées, impersonnalisées de ce que les Grecs appelaient « démons ». De ce que les anciens transformaient en dieux, de ce que les croyants enferment dans leur religion. Ces valeurs sont des idoles, des simulacres, des fétiches. Quel est cet invérifiable sentiment que la vérité est supérieure au mensonge ? Sentiment aussi fort du reste dans l'aveuglement que dans la lucidité, sinon le fétichisme de la vérité. Où puisais-je la valeur de la fraternité, des paroles et des sourires ? Bien sûr, leur source est l'amour, l'élan vers la communication, la curiosité et plus profondément encore le mouvement même de nos besoins. Mais n'est-ce pas dire que nos besoins, sitôt jaillis, entrent plus ou moins profondément dans le lit de la magie ? Il faut aller plus loin encore, en prolongeant le propos de Lucas sur la réification. On est fatalement amené à se demander si l'idée même de monde objectif est une notion plus réifiée que réelle. S'il en est ainsi, notre tendance naturelle et nécessaire à l'objectivation porte en elle une des tendances essentielles de la magie. Ainsi, la magie ne serait pas seulement présente dans ce que je vis et ce que j'aime, elle serait présente dans l'idée même de réalité objective. ce que nous confirment par ailleurs les sciences, qui ont déjà traversé le mode d'apparence des objets et rôdent aux frontières énergétiques. L'homme est à la fois profondément inadapté et profondément adaptable. Individu, il est profondément inadapté à son statut spécifique, à ce point que depuis son apparition sur Terre, il nie la mort pour croire en une survie. Il est profondément inadapté à son statut social, à ce point qu'il brise constamment dans ses rêves la contrainte qu'il subit et la brise parfois effectivement dans ses révolutions. Mais il vit de son lien spécifique, se nourrit de la société et finalement peut s'adapter à tout en demeurant l'éternel inadapté. L'homme est plus qu'un inadapté adaptable, il est adapté à l'inadaptation. Il est inadapté à l'adaptation. Toute l'histoire humaine en témoigne. Cela signifie que l'homme vit dans une situation névrotique permanente, qui est l'élément essentiel de sa santé, puisque dans notre langage, santé signifie adaptation et pathologie, inadaptation. Or, si l'on note au terme de névrose tout caractère péjoratif et si on brise son cadre pathologique, si on la considère à la suite de Freud comme une inadaptation qui tente de se fixer en adaptation magique, alors on peut comprendre que l'homme névrosé sain ne peut se passer de magie. Il a besoin de solidarité et de communion et il développe ses participations, c'est-à-dire ses aliénations. Il a besoin d'affirmer irréductiblement son individualité et il développe sa magie d'immortalité ou de personnalité. Il a besoin de transformer son environnement en objet et il réifiera ses outils mentaux sur le modèle des choses pratiques. La magie fait partie des structures humaines. Ces structures tendent à proliférer en polypes, à étouffer la sève qui les a nourris. Alors règnent le totem, l'idole, la patrie, l'interdit, le sacré, la terreur mystique, la fatalité, la nécessité historique. Mais l'homme, névrosé sain, n'est pas pour autant prisonnier totalement de la magie. Sa technique révolutionne les objets et le monde, c'est-à-dire les déréifie. Quoique par un autre mouvement, elle concourt à la réification. Sa pensée lui permet de critiquer, sa conscience lui permet de se dédoubler. Tout ceci, entre autres, constitue les vertus révolutionnaires de l'homme. Alors je peux peut-être répondre à ces questions. S'il n'est pas de vie et de pensée sans magie, pourquoi est-ce que je rejette désormais avec horreur la magie stalinienne? Si je rejette cette magie, comment puis-je m'accorder à ma propre magie? Car je ne voudrais plus ressembler à tous ces démystificateurs qui barbotent dans les mythes. Voici les réponses que je me donne. Si la magie entre dans le tissu de toute conscience humaine, du moins pouvons-nous éviter qu'elle se sclérose et se fétichise en totem et tabou, qu'elle ravage le système même de la conscience en tumeurs et cancers. Or, ce qui me fait horreur maintenant dans le stalinisme, c'est qu'il était né d'un mouvement universel, individualiste, égalitaire, fraternel, et qu'il a pu devenir un système de terreur, de rites, d'interdits et de dévotions. Ce qui me fait horreur, c'est la sorcellerie et la religion masquée en rationalisme et en esprit révolutionnaire. Par ailleurs, je crois que ma conception de la relativité et de la contradiction me permet d'entretenir des réserves de doute et de critique qui sont les seules forces subjectives qui puissent désagréger la magie. Encore que je sache que cette désagrégation, menée à son terme, est la désagrégation du réel lui-même, c'est-à-dire le nihilisme. Alors je crois qu'en maintenant le double jeu de mes participations et de mes critiques, sachant que les unes me mènent à l'absolu et les autres au néant, ces deux absurdités ennemies, je peux à la fois vivre ma magie et la reconnaître. Je lis l'attitude critique à l'attitude scientifique. Depuis quelques siècles, la science nous démontre que l'esprit de vérification et d'expérience peut et doit jouer à l'intérieur des structures réifiées. Mais surtout, depuis 3 décades, l'esprit de dépassement critique, l'esprit scientifique lui-même, a pu découvrir à travers les hublots de la microphysique et de la macrophysique un au-delà du monde réifié, un univers de contradictions et de complémentarités entre l'espace et le temps, la matière et l'énergie, l'onde et le corpuscule, et sans doute le virtuel et l'actuel. Cette conquête du microcosme électronique et du télescope géant, je veux l'étendre à notre monde humain, à notre conception générale du monde, et d'autant plus que je débouche moi-même par mon propre chemin sur la relativité et la contradiction. Si on ne peut échapper à la magie, on peut regarder à travers ses mailles et ses membranes, on doit se laisser soulever par ce qu'il a fait naître, et non pas se laisser figer et pétrifier par ce qu'il a fétichise. C'est là-dessus que je veux travailler, réfléchir. C'est avec cette conscience que je veux maintenant agir. C'est bien là, désormais, ma voix. La roue et la chape. Toutes mes idées baignent désormais dans la relativité. À jamais désintégrée, la fausse totalité où l'on croyait unir l'action et la pensée, la morale et le savoir, où l'on croyait gagner le monde. Quoique sa texture soit entièrement nouvelle, je retrouve le relativisme de mes 14 ans. La roue de mon intelligence, si on peut parler d'intelligence, avait fait une rotation complète. Je m'en étonne, mais cela n'a rien d'extraordinaire. Il suffit de considérer l'histoire des idées pour percevoir ce continu mouvement rotatif du scepticisme à la foi et de la foi au scepticisme, non seulement à travers une génération, mais souvent à travers un même individu, et même, ô prodige, les pensées les plus évoluées, les critiques les plus corrosives, retombent parfois, après une crise nihiliste, dans l'extrême magie. Pascal escaladait montagnes, puis retombait au pied du dieu d'Abraham. Hegel, après avoir ouvert les bras sur le monde, embrassait la Prusse. Tout se passait donc comme s'il y avait une roue de l'intelligence, une roue qui tourne sur elle-même, mais en même temps fait rouler quelque chose à travers des paysages nouveaux. J'aimerais ardemment, mais je ne peux pas, m'arracher à cette roue. Je peux seulement me regarder par l'artifice du dédoublement. Je peux peut-être essayer de me situer au moyeu après avoir accompli mes 360 degrés. Je voyais aussi autre chose. La vie qui passe émet continuellement des milliards de particules ou d'ondes qui pénètrent dans les cerveaux. Mais les cerveaux sont protégés par des gaines de plomb qui sauvegardent la stabilité des idées et des opinions. C'est le plomb des idéologies et des systèmes. C'est peut-être la magie elle-même. Le plomb s'épaissit sous l'effet de l'obéissance passive et de la pratique rituelle. C'est pourquoi l'armée et l'Église créent ou entretiennent le meilleur des blindages. Mais tous les blindages peuvent un jour éclater. C'est alors le désordre et l'affolement. Je sais maintenant que la pensée doit ouvrir le plus possible sa gaine de plomb, mais qu'elle ne peut être totalement ouverte. Il y a des étroitesses qu'il faut accepter, si l'on ne veut pas sombrer dans l'amorphe, c'est-à-dire au sens littéral du terme, l'informe. Flashback. Je suis arrivé au degré zéro. Avant de repartir, avant de réadhérer à moi-même, il faut qu'une dernière fois, je me regarde comme un objet. J'avais été emporté par une marée. D'une certaine façon, j'y consentais d'avance. Je n'étais pas bien dans ma peau, je voulais échapper à moi-même, nager dans les grands océans. L'histoire et la politique mêlées ont été le grand océan. Le vent s'est levé et j'ai tenté de vivre. Mais j'ai toujours flotté sur l'écume, bouchon, avant d'être rejeté sur le rivage. Je n'ai jamais connu la vraie foi, totale, permanente. Écartelé entre le nihilisme et les élans religieux qui s'agrippent sur l'histoire, j'ai vécu sans jamais avoir pu vraiment m'arracher à l'un des termes, la contradiction essentielle d'une époque. J'étais apte à vivre cette contradiction parce que, sans racine, j'étais soumis à tous les vents d'idées, parce que mon orphelinage avait accentué mes besoins de ferveur et mon sentiment du néant. Je fus conduit du tourment moral aux portes de la conscience politique, à travers l'opposition du cœur et de la raison, puis du scepticisme et du mysticisme. Vint ensuite l'influence diffuse du marxisme, sociologisme, économisme, socialisme. L'apprentissage de la dialectique de Hegel, la réconciliation du rationalisme et du romantisme, me persuada que la synthèse était possible. J'ai presque cru à un moment que je pouvais posséder la vérité dans une âme et un corps. Mais l'euphorie fut provisoire. J'essaie maintenant d'équilibrer mes pesanteurs antagonistes, puisque je sais que l'une me conduit à la foi et l'autre au néant. Ce sont à la fois des élans de jeunesse et des traits de caractère qui m'ont fait adhérer au communisme stalinien. Ces traits de caractère, manque de confiance en mes propres forces, pessimisme immédiat, optimisme du futur, messianisme, masochisme. Mon complexe messiano-masochiste a toujours infléchi mes attitudes. De plus, une psychose d'échec risque toujours de me faire capituler devant la force, le réel. Ainsi, en 1940, j'étais prêt à subir le nazisme comme une féroce ruse de la raison historique, frayant la voie du socialisme. En 1941-42, le stalinisme fut réhabilité à mes yeux parce qu'il résistait à l'épreuve de force. À partir de 1949, je suis resté en catalepsie dans le parti jusqu'à mon exclusion. Quand j'entrais dans le parti, j'avais derrière moi quelques années de lecture oppositionnelle. C'est après l'échec du Front populaire et après avoir expérimenté l'impuissance du socialisme pacifiste, humaniste et moraliste que je me suis résigné au stalinisme. Mais en même temps, j'avais 21 ans. Pas d'aigreur, pas de passé à traîner, je voulais vivre. C'est pourquoi ma psychologie fut à la fois celle de l'oppositionnel rallié qui abandonne ses illusions pour s'adapter au réel et celle de l'adolescent qui veut enfin connaître le réel, s'initier à la vraie vie. On peut comprendre que l'épreuve de la seconde glaciation stalinienne est à la fois réveillé mes souvenirs de la première glaciation et remis en circuit mes réserves rationalistes et sceptiques. L'excès de magie stalinienne commença à me déstaliniser. Puis, plus lentement, la mystique dite « nécessité historique » se désintégra. Le rapport Khrouchtchev acheva cette étape. Puis ce fut le mythe du parti incarnation de la classe ouvrière qui fut balayé à Poznan et à Budapest.
Les émeutes d'Allemagne orientale nous permettent de juger les dirigeants communistes pour ce qu'ils sont réellement, des ennemis de la classe ouvrière. À Budapest, changement total de politique, éviction de la quasi-totalité du personnel dirigeant. Le nouveau chef du gouvernement annonce le retour à la liberté individuelle des citoyens, à la liberté de religion, l'abolition des internements dont la pratique, nous dit-on, avait été élevée à la hauteur d'une institution.
Puis le mythe du prolétariat fut atteint, puis le marxisme. Ici, non pas liquidation, mais révision intégrale. Puis je me rendis compte que toutes les structures de ma conception du monde avaient été attaquées par une désintégration en chaîne. Et ce qui resta, ce fut l'idée dialectique. Non pas la synthèse préfabriquée, mais l'idée de contradiction liée à l'idée de négativité. Un certain espoir et une très grande curiosité du futur, l'amour des valeurs révolutionnaires. Et ce qui s'amorce aujourd'hui est une philosophie de la relativité et de la contradiction. Ceci dit, je suis prêt aujourd'hui à assumer la part inévitable de magie que comporte toute entreprise politique, dans les conditions que je viens de préciser, bien entendu. Je ne peux certes encore, en ce stade de déblaiement et de reconstruction, formuler un programme ou même une théorie. Je peux seulement dire que je voudrais contribuer à l'élaboration d'une politique de l'âge de fer planétaire. Elle devrait à la fois préparer les valeurs de renaissance et sauvegarder tous les ferments de liberté possibles, compte tenu des doubles jeux de l'histoire. Elle doit continuer à chercher dans l'énergie collective et la fraternité vécue la source même des vérités civiles. Elle doit continuer l'effort, même lilliputien, de renverser l'histoire sur le bon côté, mais sans illusion. Nous sommes à l'âge de fer planétaire. Il faut concourir à l'unification planétaire qu'opère la technique, mais en sécrétant les antidotes à l'unification bureaucratique et technocratique, c'est-à-dire en proposant comme mythe directeur ce que les révolutionnaires du XIXe siècle entendaient par socialisme et communiste. Non pas la communauté de caserne ou de religion, mais de nouveaux rapports entre les hommes. En même temps, il s'agirait de transformer la notion même de politique en l'élargissant au niveau des besoins de la vie quotidienne. L'homme du niveau de vie, l'homme consommateur, émerge au monde. Il cherche obscurément un nouveau genre de vie à travers les rêves et les jeux de la culture de masse, à travers les fétiches du standing. À nous de savoir s'il est possible de proposer un art de vie où s'épanouirait le genre de vie, un modèle d'individu à l'échelle de l'aventure humaine où se dissoudraient les fétiches du standing. À nous de savoir si nous pouvons proposer autre chose que le petit bourgeois universel, le fonctionnaire mystique ou l'homme télévisionnaire. Bien naïfs sont ceux qui croient posséder déjà les recettes. Allons, il faut tout recommencer. Mais l'entreprise n'est pas décevante. Elle est notre problème, le problème de chacun d'entre nous qui se refuse à l'engloutissement.
juin en 1943. Je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oh oui, je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue. Dans la rue. Dans la rue. Dans un berceau de fer, je devais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne sais pas sourire. Lorsque je suis né dans la rue, oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue. Je n'ai pas eu de père pour me faire rentrer le soir. Et bien souvent, ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Parce que je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue. Dans la rue.
Merci d'être avec nous, Edgar Morin, tout au long de cette semaine qui vous est consacrée, grâce à la nouvelle publication de ce texte qui s'intitule « Autocritique », qui avait été publié à l'aube des années 60 et qui est lu chaque soir en début de l'heure bleue par Nicolas Bouchaud. Nous en sommes à l'épisode numéro 4, avant-dernier épisode. Dans cet épisode où vous restituez les raisons pour lesquelles vous êtes devenu communiste et où petit à petit, progressivement, vous avez compris que vous étiez aveuglé, vous faites part, pour la première fois dans ce texte, d'une réflexion anthropologique et philosophique qui va teinter l'ensemble de votre itinéraire intellectuel et votre vie aussi de chercheur. Vous parlez avec insistance de ce mot « magie ». Magie. Que représente la magie pour vous ?
La magie est tout d'abord une conception du monde d'où se dégagent certaines pratiques. Alors cette conception du monde est un monde fondé sur l'analogie universelle. Par exemple, un guérisseur sur photo, intervenir pour soigner la personne. D'autre part, c'est fondé sur une capacité de commander aux phénomènes et aux événements de façon apparemment non naturelle ou surnaturelle. La magie a des formes très atténuées et qui sont très belles, qui sont la poésie. Là, la poésie, c'est l'analogie, c'est une vision du monde autre que celle de la logique rationnelle qui domine la prose. Il y a un lot de magie qui nous entoure dans la vie. La magie est en sous-sol, en chacun de nous.
Mais la magie, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas de l'ordre de la rigueur scientifique. Or, vous êtes un grand scientifique, mais vous pensez que dans la création des concepts que vous avez élaborés et que vous continuez à élaborer sur la complexité du monde, sur la possibilité de faire s'interpénétrer les disciplines scientifiques et les disciplines humanistes, est-ce que vous pensez que le rôle de l'occulte, du magique, existe encore aujourd'hui?
Ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une conception rationnelle des choses et de la connaissance, mais tout en reconnaissant les limites de la rationalité et de la logique, c'est-à-dire je suis ouvert à la part inconnue du monde. La magie a toujours accompagné les sociétés, les civilisations, qu'il s'agirait peut-être de mieux vérifier. Bon, il y a des choses sur lesquelles je suis incertain.
Aujourd'hui, nous sommes chez vous, à Montpellier. Il fait assez beau, donc vous êtes habillé comme un jeune homme avec un petit foulard en soie autour du cou. Donc je ne peux pas voir si vous portez ce que vous avez porté pendant des années et que vous portez peut-être encore, c'est-à-dire une petite chose autour du cou qui vous éloignait les mauvais sorts. Donc vous-même, vous avez un côté un peu magique.
Non, j'ai des petites.
Des petits colifichets.
J'ai quelques superstitions. Mais vous savez, à l'égard de superstitions, on y croit sans y croire. Il y a des choses que l'on garde aussi par, pas superstition, mais sentiment. Par exemple, là, j'ai une bague qui est issue d'une petite chaîne en or que mon père m'avait donnée quand j'étais bébé. Et quand j'ai eu quelques années, il l'a transformée en bague. Et c'est une bague que j'ai depuis l'enfance et que je garde aussi par sentiment. Pourquoi est-ce que je porte 2, 3 ou 4 bagues? J'en sais rien. J'ai envie de les avoir. Là, j'ai une bague qui est où il y a les syllabes sacrées du bouddhisme. Je les ai comme ça. Je pense qu'il y a une part non rationnelle de ma vie. D'abord, il y a la part que j'appelle poétique, qui n'est pas irrationnelle, qui est transrationnelle, c'est-à-dire quelque chose qui est lié à notre vie, à l'épanouissement de notre vie, de notre être. Il y a une magie dans les regards quand on aime. Il y a toute une série de choses. On peut être fasciné par un visage. C'est des choses que nous vivons d'une façon très importante et qui ne se résolvent pas dans des raisonnements. Surtout quand elle est poétique, j'accorde une importance primordiale.
Alors, plus vous avancez dans l'existence, Edgar Morin, plus vous essayez d'élucider justement cette part de mystère à l'intérieur de votre propre vie. Et l'avant-dernier livre, Autocritique, c'est une republication, mais l'avant-dernier livre, qui est paru il y a assez peu de temps, restituait ce moment très douloureux dans votre vie, dont vous parlez d'ailleurs au début d'Autocritique, mais de manière assez lapidaire. C'est la mort de votre mère. Et l'avant-dernier livre parle de votre mère. Comme si, plus vous grandissez, entre guillemets, plus vous avancez dans l'âge, plus vous voulez savoir comment vous avez résisté à la tragédie d'avoir perdu votre mère, mais cependant de toujours vivre avec elle, dans l'ombre et dans le souvenir de votre mère, et avec ce côté aussi que peuvent avoir les enfants, quand ils apprennent une tragédie qui est
aussi proche de la leur, la perte de la vie de sa propre mère, les enfants se sentent coupables. Et on a l'impression que vous voulez justement essayer de comprendre ce que ça veut dire être en vie, qui vous a donné la vie et comment vous la conservez.
Il y a eu d'abord le mystère de ma naissance, puisque ma mère avait une lésion au cœur qui en fait lui interdisait d'avoir des enfants, sinon en risquant sa vie. Et je ne sais pas pourquoi ni comment cela avait été caché à mon père quand ils se sont mariés. Ce qui fait que ma mère a été une première fois enceinte. Elle est allée trouver une faiseuse d'ange, comme on disait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'interruption de grossesse légale, et qui lui avait donné je ne sais quel produit abortif, elle avait avorté. Mais comme mon père a cru que c'était un avortement naturel, il lui a fait un nouvel enfant. Et là, ma mère à nouveau cherchait à avorter. Le polichinelle, si j'ose dire, s'est accroché, il a résisté. Je pense que j'ai dû être déjà très perturbé par le poison qu'on m'a donné. Comme ma mère n'a pas pu avorter, mon père a été averti, le docteur a dit « on sauvera la mère ». Et donc, je suis sorti par le siège avec le cordon ombilical autour du cou. Il a fallu une demi-heure pour qu'en me giflant, le gynéco me fasse pousser mon premier cri. Je suis mort-né et j'ai un rapport. Donc, ma mère devait me tuer pour que je vive, ou moi, je devais la tuer pour vivre. C'était un peu ça, mais j'ai resté inconscient. Ça a conduit que j'étais inévitablement fils unique et que j'ai vécu dans les jupes de ma mère. Quand elle est morte, la tragédie s'est accrue parce qu'on a raconté des fables que ma mère était partie en cure, en voyage. Seulement, mon pauvre père, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu un homme en noir, avec des chaussures noires, un costume noir, tout en noir. J'ai immédiatement compris. Ce qui a accru ma souffrance, c'est que, au lieu de me dire la vérité, au lieu de me permettre de dire adieu à ma mère, ils m'ont raconté des histoires, des salades. On a vécu chez la sœur de ma mère, la tante Corinne, et qui, à un moment donné, a cru bien faire en me disant « À partir de maintenant, c'est moi ta maman ». Cet acte qu'elle croyait de bienveillance, je l'ai pris pour une usurpation. Ma tragédie, ce n'est pas seulement d'avoir une souffrance indicible de la perte de ma mère, et c'est aussi de vivre avec cette horreur du mensonge et un rejet de ma famille qu'en même temps j'aimais. Donc j'ai été dans une vraie solitude, et d'ailleurs, la première fois que j'ai pu parler de ma mère, c'est quand j'avais 20 ans. Donc, si vous voulez, c'est un événement qui reste encore aujourd'hui, qui reste présent, d'autant plus que ma mère s'appelait Luna, c'est-à-dire la lune, que je l'ai identifiée à la pleine lune, et que chaque fois qu'il y a la pleine lune, j'ai l'impression qu'elle me communique. Je ne sais pas, elle reste présente. Et dès que j'ai un chagrin, une douleur, enfin c'est curieux qu'à 97 ans, je sente encore cette chose d'enfant. C'est cicatrisé, mais c'est inguérissable en même temps. Je ne sais pas comment dire. Je pense qu'effectivement, cette chose qui m'a tellement bouleversé, qui a failli me tuer, parce que l'année suivante, j'ai eu une maladie inconnue qui m'a donné des fièvres à 40-41, peut-être que c'était inconsciemment que je voulais mourir comme elle, dont j'ai été sauvé. J'ai acquis peut-être une double résistance à la mort. D'abord, en tant qu'embryon, d'avoir résisté aux produits abortifs. Et deuxièmement, après cette maladie dont on m'a sauvé. Et j'ai été hanté par le problème de la mort de ma mère. Et puis après, pendant la résistance de mes amis ou de parents qui ont été déportés, enfin bon. Donc c'est l'événement de ma vie, je dirais que c'est le, avec un E majuscule, l'événement de ma vie. Et ça m'a donné deux choses contradictoires. Le premier, c'est un scepticisme généralisé, un nihilisme, parce qu'une fois que la mère est morte, que l'amour est mort, on ne croit plus à rien. La deuxième chose, c'est un besoin d'amour insensé. Mais j'ai été privé de tout ça jusqu'à l'âge de 20 ans. J'avais des petits copains, mais ce n'était pas ça. Mais du point de vue intellectuel, ça a été très important parce que d'un côté, j'ai lu Anatole France, qui était un écrivain qu'on ne dit plus aujourd'hui, mais qui était très sceptique. J'ai trouvé qu'il répondait à moi, à mon désir. Et peu après, je lis un auteur tout à fait le contraire, Crime et châtiment de Dostoïevski, qui lui parle de l'amour rédempteur. C'est l'auteur qui a compris le mieux les pires souffrances de l'être, qui ne sont pas des souffrances de douleur physique, qui sont des souffrances morales et psychologiques. Et c'était mes deux sources, si vous voulez, Tolstoï, Dostoïevski, ça, et de l'autre côté, Anatole France, Montaigne. Et leur confluence, c'était Pascal. Pourquoi ? Parce que Pascal, il fait le pari de la foi. Moi, bien entendu, j'ai aucune foi religieuse, mais j'ai fait le pari de la fraternité, de l'amour, et j'ai pensé que c'était ça ma voie, la voie d'Eros contre Thanatos, si vous voulez. Inconsciemment, tout en maintenant la volonté d'avoir l'esprit sceptique, de maintenir le doute critique, mais c'était surtout la voie de l'amour, de l'union, de l'amitié, de la fusion, etc. Et ma vie s'est trouvée guidée par, disons, cette sorte de relation complémentaire et conflictuelle entre le doute et la foi dans l'amour, bien sûr, par Dieu, et la raison et la religion aussi dans le sens de tout ce qui peut nous relier, de ce que j'ai appelé la reliance, n'est-ce pas, entre nous. Je ne sais pas si ma mère n'était pas morte, j'aurais été dans ce sens-là, qui est exactement le sens de la complexité, puisque je vivais animé par des pulsions contradictoires et qui pourtant étaient nécessaires l'une et l'autre. C'est peut-être ça mon destin, et qui fait que, quand j'y pense, ma mère revient, parce que je lui dois soi, je lui dois tout ce que j'ai perdu, et je lui dois tout ce que j'ai acquis. Bien entendu, par la suite, je me suis réconcilié avec mon père, j'ai compris ses vertus, vous-même, vous avez parlé de ce livre que je lui ai consacré, mais bien entendu, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, et à la fin, je les ai mis dans le même tombeau l'un et l'autre, en dépit de tout ce qui est arrivé après.
Alors, il y a plusieurs Edgar Morin, publiquement. Il y a le Edgar Morin qui est célébré dans le monde entier, il y a le Edgar Morin qui a droit à des statues un peu partout dans le monde entier, sur qui on fait des colloques. Il y a beaucoup de publications signées Edgar Morin, il y a des milliers de pages, il y a le Edgar Morin anthropologue, on ne l'a pas encore beaucoup évoqué, il y a celui de Plausévé, il y a celui de La Rumeur d'Orléans, il y a le Edgar Morin scientifique, il y a le Edgar Morin qui est parti avant tout le monde aux États-Unis, en Californie, qui a écrit ce journal magnifique qui parle justement de cette jeunesse estudiantine et qui a découvert les nouvelles sciences. Il y a le Edgar Morin de la pensée complexe. Tous ces Edgar Morin se confondent-ils en un seul ? Et Edgar, avez-vous plusieurs vies ?
J'ai plusieurs facettes, mais je crois une grande unité. La première unité vient de cette façon de penser que j'appelle complexe, qui essaye de voir les multiples aspects, même contradictoires d'un phénomène, qui essaye de voir les liens entre ce que, en général, notre éducation nous oblige à séparer. Cet unique personnage est animé d'abord par une réflexion sur la connaissance, puisque la connaissance est en même temps une source permanente d'erreurs et d'illusions. C'est ça l'autocritique aussi. C'est que j'ai compris que le mal se trouvait dans ma connaissance. Ça m'a emmené dans mon livre La Méthode à approfondir la recherche d'une connaissance plus pertinente que les autres. Mais cette recherche est liée en même temps à ce qu'on ne peut plus appeler aujourd'hui anthropologie, puisque l'anthropologie est rétrécie aux populations sans écriture, mais avant, c'était une réflexion sur l'homme en parlant de toutes les disciplines. Et je reprends un terme qu'a inventé mon ami Dortier, qui s'occupe de sciences humaines, il parle d'humanologie. Dans le fond, je suis un humanologue. Quand vous regardez l'homme et la mort, quand vous regardez le paradigme perdu de la nature humaine, ou même ce volume dans la méthode qui s'appelle l'humanité de l'humanité, mon préoccupation, c'est qu'est-ce que c'est que l'humain ? Qu'est-ce que c'est que l'être humain ? Bon, c'est quelque chose qui n'est pas seulement individuel, qui est social et qui est biologique. C'est ça que j'essaye de comprendre. Si je veux comprendre ce que c'est que l'humain, je dois avoir une connaissance pertinente. Donc la question de la connaissance et la question de l'humanité sont liées. C'est Kant qui se posait la question « Que puis-je savoir ? Que puis-je croire ? Et que puis-je espérer ?» Et il disait « Mais pour répondre à ces questions, il faut savoir ce que c'est que l'homme. Si je crois que je suis resté fidèle à cette question, à ces questions inséparables, qu'est-ce que l'humain ? Qu'est-ce que la connaissance ?» C'est ça l'unité de ma pensée. Cette unité n'est pas seulement sur le plan, disons, de la réflexion, de l'étude. Elle est aussi, elle m'a poussé sur le plan de l'intervention. Parce que je crois que quand on a une pensée, disons, humanologue, où je me sens lié au destin de l'espèce humaine, où je sens que je suis un moment, une particule infime d'une aventure gigantesque qui non seulement a commencé avec la préhistoire et qui continue dans l'incertitude absolue, avec toujours de l'inconnu et des surprises, mais qui est la continuation de l'histoire de la vie et de l'univers, je suis un moment de cette aventure humaine et je ne peux pas me dissocier de cette aventure tout en sachant qu'elle est indissociable de celle de l'univers. Une fois que je sens ça, je sens que prendre le parti d'Eros contre Antéros, c'est prendre les partis contre les oppressions, contre les dominations, contre les mensonges, contre les cruautés, pour la compréhension, pour la fraternité, pour l'humanité. Je suis intervenu, la résistance a correspondu à ça, et par la suite, comme je vous l'ai dit, je sens que je dois continuer à être présent sur le front des deux barbaries qui déferlent aujourd'hui à nouveau. Voilà un petit peu ce qui fait mon unité à travers les études les plus diverses, parce que c'est les mêmes problèmes humains que j'interroge quand j'interroge B68 ou bien le problème de la mort.
Nosferatu, ami mortel, la fable conte des enchantements. Je suis l'immense, l'impressionnant, le mort-vivant. Je suis le pire, dernier soupir, sanguinolent. Mon Nosferatu. Un délice onctueusement rouge, tu blanchis sous ma puissance décuplée. Une dernière goutte de sang et je disparais, laissant le goût amer de mes crocs dans ta jugulaire.
Nosferatu.
Je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi.
C'était Arthur H. et son titre Nosferatu. Merci à Nicolas Bouchot pour sa lecture. Merci à Ihab Radouane pour sa musique originale. Merci aux éditions Robert Laffont qui republient dans la collection bouquins de nombreux textes d'Edgar Morin, dont celui-ci autocritique. Et merci aux éditions du Seuil. Et merci évidemment à Edgar Morin qui nous a reçus chez lui à Montpellier.